Alors, je vous propose, comme il fait très chaud, moi, je vous admire beaucoup d'être venu, parce que je crois qu'à votre place, je serais plutôt allée boire une bière dans un bar, surtout les plus jeunes d'entre vous, là. Je vous trouve carrément héroïque. Surtout que le package de dire on va parler de Jésus dans la théologie dogmatique, franchement, je ne comprends même pas comment vous êtes là ce soir. C'est un véritable miracle. Donc, je propose qu'on prie l'Esprit Saint, peut-être. Ah, voilà, vous aviez un pistolet sur la tempe. Alors, espérons quand même que nous puissions ce soir, vous et moi, rencontrer Jésus. Et pour cela, je propose qu'on se lève et qu'on prie l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, nous embrasser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Notre-Dame de Paris, Saint-Philippe, Saint-Jacques, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, amen. C'est la paroisse Saint-Philippe et Saint-Jacques ? Ah ! Alors, j'ai proposé comme thème, je suis coupable. Jésus, une surprise. Parce que mon envie ce soir pour vous, comme pour moi d'ailleurs, c'était qu'on se pose la question, est-ce qu'on ne s'est pas un peu habitué à qui est Jésus ? Est-ce qu'on ne s'est pas tellement habitué que finalement, comme un vieux couple marié depuis tant d'années, on ne se regarde plus dans les yeux, lui et nous ? Et qu'à force de passer devant un crucifix, on est tellement habitué qu'on ne le regarde plus. Et à force de passer devant un tabernacle, on est tellement habitué qu'on ne réalise plus du tout qui est là. Et donc, ce que j'avais envie de faire avec vous, mais pour vous comme pour moi, c'est prendre une soirée, comme si on dit ça aux couples, il y en a parmi nous, de prendre de temps en temps un petit resto en amoureux et de se regarder dans les yeux et parler d'autre chose que les factures d'électricité et le petit qui a des mauvaises notes en maths, vous voyez ? Eh bien, je propose une soirée. On va surtout demander à l'Esprit Saint de le faire pour nous, hein, parce que une soirée pour ouvrir nos yeux et regarder Jésus dans les yeux, le regarder différemment, prendre un peu de recul et le regarder, nous déshabituer à qui il est, nous qui, depuis Antioche, dans les Actes des Apôtres, portons le beau nom de chrétien. Nous le portons, mais finalement, est-ce que nous regardons Jésus ? J'étais très frappée. Je travaille aussi un petit peu chez KTO, où j'ai la chance d'interviewer des gens plutôt loin de l'Église. On m'a demandé à moi d'interviewer plutôt les artistes, les romanciers, les gens du monde, les chanteurs, donc toutes sortes de gens, et d'essayer de leur poser des questions sur leur foi. Alors leur foi de manière très 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 large. Alors on appelle cette émission « Lumière intérieure » pour dire qu'est-ce qui vous anime au fond. Et ce qui m'a beaucoup beaucoup frappée depuis le début de l'année, je fais ça juste depuis un an, c'est que les gens, quand on leur parle de Jésus de Nazareth, ça les touche. Je vais vous donner un exemple qui m'a étonnée. Par exemple, j'ai interviewé Mazarine Pinjot, vous voyez, la fille cachée de Mitterrand. Eh bien, elle, je lui parle... Bon, vous ne vous dites pas en pensant à elle que c'est une grenouille de bénitier, vous voyez. Et je lui dis, est-ce que la figure de Jésus de Nazareth vous dit quelque chose ? Elle dit, oh, elle m'éblouit. J'aurais voulu écrire un livre sur Jésus de Nazareth, mais je ne l'ai jamais fait. Ce qui l'étonnait, elle, c'est la parole performative de Jésus de Nazareth. Ce qui dit, il le fait. Et comme elle est une philosophe qui travaille sur le langage, elle était fascinée par ce côté de langage performatif, le langage efficace. Sinon, il y a Eric Orsenna. Vous voyez l'écrivain Eric Orsenna qui a écrit « La grammaire est une chanson douce » ou le roman « Madame Ba », un académicien. Et il me dit « Jésus, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait dans mon enfance ». Alors, 2 minutes avant, il venait de dire « j'ai perdu la foi, j'ai pas du tout la foi ». Mais il dit « Jésus, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait dans mon enfance ». Alors, je dis « pourquoi ?» Parce que cette phrase « aimez vos ennemis », j'ai jamais entendu rien de plus beau. Impressionnant. Je vais vous donner encore un exemple qui m'a beaucoup touchée. Un présentateur télé du journal de 13h qui remplaçait Jean-Pierre Pernaut, vous voyez, Jacques Legros. Donc, on appelle ça le joker de Jean-Pierre Pernaut. Donc pareil, il dit qu'il n'a pas du tout la foi, très sympathique le type, et je lui dis avec un peu de malice, est-ce que si vous aviez été journaliste au temps de Jésus, vous auriez fait une enquête sur cet homme-là, puisque vous êtes journaliste, que votre passion, c'est de connaître les gens, les choses. Est-ce que ça vous aurait intrigué, cette histoire-là ? Et là, il s'arrête, il dit, « Ah non, je n'aurais pas fait une enquête sur lui, je l'aurais suivi. » Ça, c'est pour vous dire, ça, c'est des gens qui se disent non-croyants. Et nous, les croyants, qu'est-ce qu'on dit de Jésus ? Est-ce qu'on est aussi enthousiaste, finalement, que ces gens plus loin ? Qui, en fait, sans connaître le Christ, le trouve splendide. Il ne croit pas qu'il est ressuscité. Et Jacques Le Gros, donc le présentateur télé, il m'a même dit « Je suis né à la mauvaise époque. Je regrette. J'aurais aimé être le disciple de cet homme. C'est l'homme parfait, m'a-t-il dit. » Alors là, j'avais évidemment envie de lui dire « Mais il est ressuscité, vous pouvez être le disciple de cet homme. » Mais bon, je n'avais pas trop le droit de faire une énorme évangélisation en direct. Donc, j'ai entendu parler, vous certainement aussi, de cette sainte magnifique qui s'appelle Madeleine Delbrel. Elle est donc athée, elle se dit athée à l'âge de 15 ans. Elle habite, au début, elle naît en Dordogne, elle arrive à Paris dans un milieu très très intellectuel. On est pendant la Grande Guerre. Et puis elle est invitée dans les salons parisiens, je ne sais pas si c'était loin d'ici, chez le docteur Armingaud, où là tout le monde est parfaitement athée. Et donc elle est très athée. Elle dit, alors j'ai noté, à 15 ans, j'étais strictement athée. Je trouvais chaque jour le monde plus absurde. Donc elle est vraiment athée. Et voilà que Madeleine Delbrel, alors je dis ça pour les jeunes, rencontre un beau garçon. Il y en a plein des beaux garçons. Hein. J'ai été escortée par une armée de beaux garçons jusqu'ici. Madeleine, strictement athée, rencontre un beau garçon qui arrive dans le salon chic de Monsieur Armingaud, où tout le monde est très intellectuel, très intelligent. Et voilà que Madeleine trouve ce Jean très beau, elle remarque comme il est beau, et en plus, Jean danse bien, je ne sais pas s'il y en a qui dansent bien, mais enfin, Jean danse bien, ça lui tape un peu dans l'œil. Elle a beau dire que le monde est absurde, elle est quand même assez contente de danser toute la nuit avec ce beau Jean. Et voilà que Jean se lie d'amitié avec Madeleine et l'emmène chez des copains. Et ses copains, stupeur, sont intelligents, dit Madeleine avec surprise, et ils sont chrétiens. Alors pour elle, évidemment, si on est chrétien, on est sot. Donc c'est déjà la première surprise, c'est qu'ils sont intelligents et ils sont chrétiens. Et donc elle est ravie d'être invitée chez ces gens-là, elle va de dîner en dîner chez ces gens chrétiens, et elle dit cette chose très jolie, je dis ça vraiment surtout pour vous les jeunes. Elle est invitée à des fêtes. Et elle dit cette chose très jolie, chez ces gens-là, on avait quasi l'impression qu'ils allaient tendre une chaise pour dire à Jésus de s'installer au milieu d'eux. Tellement Jésus était vivant pour eux, tellement Jésus était quelqu'un, on avait l'impression, dit Madeleine, qu'ils allaient tendre une chaise, on ne serait même pas étonné qu'ils tendent une chaise pour Jésus, tellement Jésus était quelqu'un de vivant pour eux. Ça commence à l'intrigue. Et puis, alors il lui arrive un drame, c'est qu'évidemment elle tombe amoureuse de ce Jean, on le voyait venir gros comme une maison. Et Jean tombe aussi amoureux d'elle. Il l'invite au Cap Ferret, elle découvre la famille et elle croit vivre une grande histoire d'amour. Sauf qu'à la fin de l'été, Jean part, il laisse juste une petite lettre, il est rentré chez les Dominicains. Et comme il est amoureux d'elle, il se sent appelé à devenir prêtre, il n'a même pas eu le courage de lui dire au revoir, certainement parce qu'il a peur de tout lâcher et de ne pas répondre à cet appel s'il revoit le visage de Madeleine dont il était amoureux. Et donc là, Madeleine s'effondre, évidemment. Elle s'effondre parce que tout le monde pensait déjà qu'elle serait mariée dans quelques mois. Elle était folle amoureuse de ce Jean et le monde s'effondre devant elle, évidemment. Et donc, elle fait une sorte de mini-dépression. Et là, elle dit, comment se fait-il, ça c'est assez rigolo, comment se fait-il que Jean ait pu préférer Dieu à moi ? Comment est-ce possible ? Qui est ce Dieu ? Pour que Jean ait préféré Dieu à moi et au bonheur qu'on avait ensemble. Elle n'est pas folle, ils étaient amoureux, elle avait bien vu qu'ils étaient très heureux ensemble. Or, il a préféré Dieu à ce bonheur d'être avec elle. C'est absurde. Et donc, pour la première fois de sa vie, Madeleine s'agenouille dans sa chambre. Et d'un coup, elle rencontre Dieu dans la prière. Elle écrit la chose suivante. « Tu vivais, elle parle à Dieu, tu vivais et je n'en savais rien. » Tu avais fait mon cœur à ta taille, ma vie pour durer autant que toi, et parce que tu n'étais pas là, le monde entier me paraissait petit et bête. Quand j'ai su que tu vivais, je t'ai remercié de m'avoir fait vivre, je t'ai remercié pour la vie du monde entier. Et d'un seul coup, Madeleine dit, ce soir-là, j'ai été éblouie par Dieu. Éblouie par Dieu. Elle va décider de elle-même se consacrer à Dieu, comme laïque consacrée dans les quartiers d'Ivry, qui sont à l'époque communistes, et jusqu'à la fin de sa vie, elle est assistante sociale et missionnaire. Elle vit pauvrement, elle habite dans une petite coloc de femmes, elles appellent ça des missionnaires sans bateau, parce qu'elles n'ont pas de règles de vie à part l'évangile et la charité. Et voilà que jusqu'à la fin de sa vie, elle va annoncer l'évangile dans un monde athée, le monde communiste, et elle est aujourd'hui en procès de béatification. Tout a commencé parce qu'il y avait des chrétiens, des jeunes chrétiens qui étaient beaux et intelligents et qui, au milieu de leur fête, pas dans la prière à la chapelle, au milieu de leur fête, de leur dîner, étaient tellement amoureux de Jésus qu'on avait l'impression qu'ils allaient offrir une chaise à celui qui était vivant autour, au milieu d'eux. Alors moi aussi, ça m'est arrivé cette chose-là, puisque quand j'étais jeune adolescente, j'ai rencontré une famille qui arrivait dans la ville où j'habitais, qui était Nantes. Et cette famille, c'était très frappant pour moi, cette famille, la mère avait mon âge aujourd'hui, elle me semblait très vieille à l'époque, mais je sais maintenant qu'elle avait mon âge aujourd'hui et elle venait d'être veuve. Elle était veuve, elle avait 4 enfants et donc elle était en fait une très jeune veuve. Ah, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord, monsieur ? Et moi, quand j'étais ado et j'avais l'âge de sa fille aînée, donc elle avait une fille aînée ado et elle avait donc elle avait 4 enfants dont le dernier, je pense, avait 7-8 ans. Donc elle avait la vie devant elle à élever cette troupe et son mari venait de mourir d'une tumeur au cerveau. Elle arrive dans ma ville et je suis invitée à goûter chez cette famille. Cette famille endeuillée, gravement endeuillée. Donc moi, je m'attends à quoi ? À un truc triste et lugubre, évidemment. Je m'attends à sortir les mouchoirs. J'étais très intimidée d'arriver là et tout ça, mais la fille était vachement sympa. Donc je vais quand même au goûter. Et voilà que dans cette famille, c'était exactement cette expérience. Je vois très bien ce que veut dire Madeleine. Jésus était vivant au milieu de ces gens. Et moi, je ne me suis pas dit « ils sont intelligents », parce que ça, je m'en fichais pas mal, mais je me suis dit « ils sont endeuillés et ils sont joyeux ». Comment une telle chose est-elle possible ? Je me suis dit, j'étais adolescente, les adolescents, ils voient tout de suite quand on leur ment. Je me suis dit « cette femme, elle est veuve, elle ne peut pas faire semblant d'être joyeuse, elle vient de perdre l'homme et l'amour de sa vie, elle a 4 enfants à élever, je voyais très bien quand même que ce n'était pas facile. » Et elle était joyeuse et je le voyais de mes yeux. Et Jésus était vivant au milieu d'eux. Et je crois que ça a été la première rencontre la plus forte avec Jésus, me dire Jésus est vivant aujourd'hui au milieu de nous. Alors voilà, essayons. Je vais avoir 2 points. Le premier point, on va regarder rapidement quelques éléments dans l'évangile de Matthieu. C'est très stressant parce que j'ai des élèves dans l'évangile qui ont un autre prof dans l'évangile de Matthieu. Vous allez pouvoir me juger sévèrement. Et le deuxième point, nous allons regarder qu'est-ce qu'en dit le cardinal Ratzinger parce qu'il a une image assez austère de Panzer Cardinal, je ne sais pas quoi, qui est complètement aux antipodes de qui est cet homme, d'une douceur exquise, d'une courtoisie absolument parfaite, d'une culture encyclopédique, d'une poésie folle, enfin bref, d'une tendresse invraisemblable et même un type romantique. Bon, ça, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais je vous promets, mes élèves qui sont en cours avec moi savent très bien que c'est vrai. Nous allons donc regarder l'évangile de Matthieu et nous allons regarder le cardinal Ratzinger. Quand il a écrit Jésus de Nazareth, vous savez que le cardinal Ratzinger, il rêvait absolument que d'une chose au monde, c'était qu'on lui foute la paix et d'être théologien bien tranquille. Et voilà qu'il a été préfet à la Congrégation pour la doctrine de la foi, ce qui le rasait profondément parce qu'il voulait évidemment plutôt écrire des bouquins sur Jésus. Et puis ensuite, il a été pape, ce qui était la tuile absolue qui lui tombait sur la tête. Et il dit, quand j'ai appris que je devais devenir pape, l'image de la guillotine m'est venue. Donc là, ça vous donne un peu l'ambiance, c'est-à-dire qu'il était épouvanté. Il voulait se réfugier dans sa maison de Ratisbonne et faire de la théologie. C'était son rêve, c'était sa vocation d'être théologien. Et son rêve, depuis le début de sa carrière de théologie, c'est d'écrire un livre sur Jésus. C'est son rêve. Et d'ailleurs, c'est assez touchant parce qu'il va mourir quand il a quand même enfin réussi à écrire ce livre sur Jésus. Vous connaissez, c'est Jésus de Nazareth, il en a fait 3 tomes. Et en fait, c'est intéressant, parce que le livre est quand même austère. Les livres de Jésus de Nazareth, en vrai, ce n'est pas du tout les plus faciles de Ratzinger. Ils ont un côté assez aride, alors qu'il y a d'autres livres beaucoup plus vivants de Ratzinger. Mais ce qu'il voulait faire, et c'est pour ça que je vais le citer ce soir et qu'on va travailler un tout petit peu rapidement, en prenant en compte qu'il fait 35 degrés, hein, rassurez-vous, quelque chose sur lui. Il voulait, disait-il, susciter un tendre amour pour le Christ. C'était ça son rêve, susciter un amour tendre pour le Christ. Donc voilà, on va se mettre à son école, Saint Matthieu, Ratzinger, et puis tout le monde pourra aller boire une bière. Saint Matthieu. C'est très frappant dans l'évangile de Matthieu. Le contexte de Jésus de Nazareth, peut-être qu'on peut en dire deux mots. Le contexte de Jésus de Nazareth est un contexte d'occupation. On connaît ça chez nous, il n'y a pas si longtemps, on était dans un contexte d'occupation avec les bottes nazies qui passaient dans les rues. Le contexte de Jésus de Nazareth est un contexte d'occupation, avec l'occupant romain qui n'est pas tendre du tout, puisque quand on arrive et qu'on arrive à Jérusalem pour emmener les enfants à l'école, à la porte de Jérusalem, il y a quand même des crucifix qu'on sait aujourd'hui être à hauteur d'homme, avec des crucifiés qui pendent à la porte de Jérusalem et qui vous menacent en disant « Attention, si vous vous révoltez contre l'occupant romain, voilà ce qui va vous arriver demain. » Il y a un autre facteur de pression très fort sur les populations juives, c'est l'impôt. Voilà pourquoi dans l'évangile on déteste les collecteurs d'impôts, c'est qu'évidemment les populations juives sont pêcheurs, ils ont des petits boulots et que l'impôt est énorme. Et donc on est étranglé par l'impôt et ça c'est une manière extrêmement pratique de soumettre une population, c'est de lui faire cracher des sous et de faire en sorte qu'il soit ric-rac. Donc on voit très bien que le contexte d'époque de Jésus de Nazareth est un contexte de tension très grande. Qu'est-ce qu'on attend ? Dans un contexte où il y a un occupant, quand il y a les nazis qui passent avec leurs bottes et qui emmènent les juifs en rafle, on attend un libérateur. On attend quelqu'un qui nous libère de ce joug. Et je trouve qu'on a trop vite fait de juger un peu rapidement avec mépris tous ceux qui attendaient de Jésus d'être un roi puissant, parce que je pense qu'en réalité, si nous avions été à la même époque, nous aurions nous aussi attendu un roi puissant. D'autant plus que la promesse de Dieu était que on est une terre et une terre libre, un temple, et que là, on est une terre occupée en Israël, et que donc évidemment, pour que la promesse de Dieu se réalise, on attend que cette terre soit libérée. Peut-être c'est la toute première chose qu'on peut dire, le contexte. Une attente très vive d'un libérateur et d'un roi puissant. Et là, vous me voyez venir avec mes gros sabots pour dire, Jésus, une surprise. On attendait un roi puissant, et je crois que dans notre propre vie, si nous sommes honnêtes, nous attendons bien souvent de Jésus, d'être ce roi puissant qui nous libère de toutes nos croix et qui nous arrange toutes nos affaires et qui, d'un coup de baguette magique, guérit ci, console là. Et peut-être que nous avons raison et que c'est notre cri d'ailleurs de dire « console-moi, sauve-moi ». Mais on voit bien qu'au fond, nous attendons aussi un Messie très fort et très puissant qui nous tire de nos embûches. En fait, nous ressemblons évidemment à ceux qui attendaient du Messie d'être un roi puissant. Et puis, donc ça c'est mon deuxième point sur le début de l'évangile de Matthieu, on voit cette scène extraordinaire du baptême de Jésus au chapitre 3, donc ça évidemment tous les élèves des Bernardins lèvent la main et disent le chapitre 3, et on voit très bien que sur les bords du Jourdain, il y a cette espèce de type étrange qui mange des sauterelles et qui est couvert de peau de mouton, ce type qu'on imagine maigre et un peu flippant, n'est-ce pas, je sais pas, Jean le Baptiste, il est quand même étrange, il est quand même étonnant. Et là, si on l'écoute un peu dans l'évangile de Matthieu, il crie et il annonce un jour du jugement, un jour du jugement. Alors attention, parce que si on est par exemple une veuve opprimée ou un type chassé injustement de son boulot, on attend la justice, n'est-ce pas ? Si vous venez de vous faire virer de votre boulot injustement, vous n'attendez qu'une chose, c'est la justice. Que justice soit faite, qu'on prouve que vous aviez raison et que c'était injuste qui vous est arrivé. Donc l'attente du jugement, c'est quelque chose d'assez positif. On attend que Dieu vienne enfin montrer sa justice, vienne enfin montrer qu'il est juste et que les méchants soient punis et que les bons soient récompensés. Les bons dont nous sommes sont récompensés. Et donc on voit bien qu'il y a une attente très très forte d'un jour de jugement. Et que Jean le Baptiste, sur les bords du Jourdain, il annonce qu'enfin ce jour est venu. Et donc les gens descendent pour être baptisés dans l'eau. Et Jean le Baptiste crie, ce jour est venu, voici que la hache se tient à la racine de l'arbre. Et il annonce donc, et ça c'est quand même assez étonnant, une hache qui va couper tous les arbres secs, donc tous les pauvres types qui font des péchés coupés dans l'imaginaire des gens, et un feu qui va tout brûler. Voilà ce qu'annonce Jean le Baptiste. Donc voilà ce qu'on attend quand on est au bord du Jourdain au début de l'évangile de Matthieu. Nous sommes avec Jean le Baptiste. Et nous attendons cette hache qui arrive et il dit, il arrive, il est là, il est là, il est là. Donc on se retourne. Et le verset suivant, c'est peut-être un des plus éblouissants de l'évangile. Alors paraît Jésus. Vous voyez, alors paraît Jésus. Comme alors vient le soleil du matin, alors survient le matin. Et c'est la première fois dans l'évangile de Matthieu qu'on aperçoit le visage de Jésus adulte. Avant, on l'a vu tout petit enfant dans l'étable, on l'a entreaperçu avec Marie, mais on ne l'a pas encore vu vraiment. Alors paraît Jésus. Alors là, vous voyez, nous, on l'imagine, quelle démarche, quel regard, son allure de charpentier, ses vêtements certainement un peu sommaires et communs. Alors paraît Jésus. Et donc, vous voyez, tout est fait dans l'évangile de Matthieu pour qu'on crée un suspense énorme. Alors ce Jésus, il va être cette hache qui frappe les arbres pour les retrancher. Il va être ce feu qui brûle et on ne va pas tenir devant ce feu d'ailleurs, parce que là on pense à nos péchés, on se dit « Mon Dieu, évidemment que je vais un arbre retranché, comment il va me brûler tous mes péchés ?» Et le suspense est très très fort si on lit avec des yeux neufs l'évangile de Matthieu. Alors paraît Jésus, on attend, elle va être comment cette hache, ce feu ? Et là c'est la surprise absolue. Et Jésus fait un truc absolument stupéfiant. Et si on n'est pas stupéfié, il faut relire l'évangile de Matthieu en boucle jusqu'à ce qu'on soit stupéfié, parce que ce n'est pas normal qu'on ne soit pas stupéfié. Jésus descend dans le Jourdain et fait la queue au milieu des pécheurs pour être baptisé. Est-ce que vous arrivez à sentir bien que c'est la dernière chose qu'on attendait de Dieu qui vient nous juger ? On attendait un feu, on attendait une hache. On attendait un truc tonitruant qui allait trier les bons, les mauvais, et enfin le jour du Seigneur de justice serait arrivé. Et voilà un homme avec une tête de charpentier. Il a l'accent de Nazareth en plus, donc on imagine, je ne sais pas, vous voyez quelqu'un du Sud, tout de suite qui a l'accent du Sud, comme ça. Il fait vraiment, vraiment humain. Vraiment, vraiment humain. Et puis, on le voit et il descend pour être baptisé. Évidemment, on est baptisé si on est pécheur. Vous voyez, peut-être que pour nous rendre compte un peu de ce qu'il fait, alors je vais faire un truc hyper choquant exprès pour qu'on se réveille, vous voyez, parce qu'en fait on est tellement endormi Jésus, je vais dire un truc hyper choquant. Imaginez-vous, si on vous dit, puisque c'est le péché en ce moment qu'on dénonce comme le plus grave, etc., il y a dans cette assemblée des personnes pédophiles, iriez-vous faire la queue derrière eux sans dire « Ah mais moi pas du tout, hein, moi absolument pas !» Voilà ce que fait Jésus en fait. Il se met au milieu des pécheurs, donc ils sont là avec leurs mains pleines de péchés, ils ont tous fait des péchés pas très brillants, comme les nôtres d'ailleurs, je ne sais pas qui d'entre nous a fait des péchés brillants, en tout cas pas moi. Et donc, et voilà Jésus qui descend et qui ne dit pas, et ça c'est son silence est stupéfiant, il n'a pas une petite pancarte disant « Attendez, je suis là, mais c'est pour rendre la justice, moi évidemment j'ai les mains immaculées, je n'ai jamais touché ni de près ni de loin au moindre péché, mes lèvres sont exemptes du mensonge », il ne dit rien. Ce qui fait que visuellement, vous le voyez faire la queue avec les pécheurs et vous pensez évidemment qu'il en est. Et donc, là, Jean le Baptiste est renversé. Et j'espère que nous le sommes aussi ce soir. Et que ce jour de justice, ce jour du Seigneur, déjà rien ne commence comme c'était prévu. Et déjà d'emblée, c'est absolument stupéfiant. Déjà d'emblée, c'est une surprise absolue, une surprise totale. Et d'ailleurs, Jean le Baptiste est... Vous regarderez ce soir, si vous avez le courage après la bière, de relire le passage. Jean le Baptiste est absolument saisi. Il ne veut pas. C'est moi qui dois être baptisé par toi. Il le sait. C'est toi qui dois me baptiser. Et Jésus a cette phrase. Et peut-être c'est la première chose qu'on peut retenir pour nous. Laisse faire. Alors peut-être, je vais faire une toute petite reprise rapide. On aperçoit tout de suite dans l'évangile de Matthieu que Jésus n'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Que à la fois il va faire ce que Jean le Baptiste a dit. Il va être cette hache qui, en fait, retranche le péché du cœur de l'homme. Il va être ce feu qui brûle. Il va l'être. Vous voyez, il y a quand même une continuité entre ce que Jean-Baptiste a dit. C'est pas complètement autre chose. C'est quand même bien ce que Jean-Baptiste a dit. Mais c'est d'une manière tellement différente. C'est d'une manière tellement déconcertante que tout le monde est stupéfié. Et que la seule chose que nous dit Jésus là, c'est « laisse faire ». Je suis une surprise, je suis stupéfiant, laisse-moi faire, tu ne comprends rien, laisse faire. Et Jésus dit, c'est ainsi qu'il nous faut accomplir toute justice. Donc c'est comme ça que je vais accomplir la justice, t'inquiète pas. Je suis ce feu et cette hache, mais ça sera tout à fait différent de ce que tu avais imaginé. Et voilà la racine sainte qu'est Jésus qui se met à côté des arbres qui méritent d'être retranchés, nous, les pécheurs. Et voilà le saint, l'unique saint de toute l'histoire du monde, qui fait la queue au milieu de ceux qui ont, comme nous, les mains, les lèvres, le corps corrompu et sali par l'expérience triste du mal. Et c'est ainsi qu'il va accomplir la justice. Voilà pour Saint Matthieu. le début, hein, évidemment, c'est juste un avant-goût, juste pour vous dire à quel point, dès le début de l'évangile de Matthieu, Matthieu prend soin de dire qu'à la fois c'est ce qu'on attendait et à la fois c'est une surprise totale. Passons à Ratzinger maintenant. Peut-être qu'on peut dire rapidement, attendez, parce que moi, du coup, je n'ai pas surveillé l'heure. J'ai commencé il y a une demi-heure, c'est ça ? Ok, donc je suis bien dans les temps. Quand on a Ratzinger, alors Ratzinger, peut-être qu'on peut dire, on va regarder chez Ratzinger comment Jésus, pour lui, est une surprise chez Saint Jean. Jésus est une surprise chez Saint Jean et il regarde le début de l'évangile de Jean. Donc j'ai essayé de vous montrer que le début de l'évangile de Matthieu montre que Jésus est complètement une surprise. Dans l'évangile de Jean, Jésus est complètement une surprise, mais c'est fait d'une toute autre manière. C'est construit d'une toute autre manière. Jean commence en disant « Au commencement, il y a le Logos ». Alors déjà, c'est très très gonflé de la part de Jean, parce qu'évidemment, ça vous fait penser au livre de la Genèse. « Au commencement était Dieu ». Ça, c'est le début du livre de la Genèse. Je ne sais pas si vous oserez... Certainement, il y a des gens qui ont déjà écrit des livres ici, dans la pièce. Je ne sais pas vraiment si l'un d'entre nous oserait avoir le culot de commencer un bouquin comme le début de la Bible. Vous voyez, l'espèce de culot de Saint Jean, qui se hisse tout de suite au niveau de la Genèse, le premier livre de la Torah. Il y a de quoi quand même, c'est quand même un sacré pied de nez. Ça veut dire, l'événement de Jésus est tel que tout de suite je le hisse au niveau de la création du monde. Vous voyez, rien que le début, au commencement était Dieu, la Genèse, et Saint Jean, début de l'évangile de Jean, au commencement était le Verbe. Vous connaissez bien, au commencement était le Logos, le Verbe. Donc voilà, hop, Saint Jean qui, avec un culot complètement considérable, hisse son récit sur Jésus au niveau de la Genèse et dit, bah voilà, rien que le premier verset nous montre que pour lui, c'est pareil. C'est le même statut, c'est la même importance. On comprend que pour un juif, ce soit quand même un peu raide à avaler. Au commencement était le Logos. Je voudrais, alors, et là, c'est là que Ratzinger est très intéressant pour nous montrer comment c'est une surprise totale. Au commencement était le Logos, en fait, pour un grec qui regarde l'évangile... de Jean, vous savez que l'évangile de Jean est écrit en grec, donc pour un grec qui prend l'évangile de Jean et qui lit, qui connaît très bien Platon, qui connaît très bien Aristote, il comprend, au commencement était le Logos, ça veut dire, au commencement, le monde a un sens. Au commencement, le monde est organisé. Au commencement, le monde a une logique. Au commencement, le monde est raisonnable. Alors, le grec qui lit ça, il est tout à fait d'accord. Vous voyez, là, il signe en bas de la page. Bien sûr, au commencement, le monde est raisonnable, le monde a un Logos... Le monde a un sens. Alors, quand on entend le mot sens, on entend une origine et puis aussi une direction. Donc, on peut répéter. Au commencement était le Verbe, donc au commencement était le Logos dans le texte original. Au commencement, le monde a une origine. Le commencement, le monde a une logique. Au commencement, le monde est raisonnable. Et puis aussi, au commencement, le monde a une direction. Ça va pour l'instant, j'ai semé personne ? Alors, le mot logos en grec a une autre signification, et c'est la signification qu'on connaît mieux dans le mot latin. Il est aussi dit que le mot grec veut dire raison, sens, logique, ce qu'on vient de dire là, direction. Et le mot grec veut aussi dire parole. Ah, alors là, pour un grec, c'est déjà plus original. Au commencement du monde, il y a une parole. C'est déjà plus original pour un grec qu'au commencement, le monde est logique, le monde a un sens, le monde est organisé, le monde est intelligent et intelligible. Ce qui, pour une intelligence de la philosophie grecque, est tout à fait banal. Au commencement du monde, il y a une parole. Bah, du coup, ça veut dire qu'au commencement du monde, il y a quelqu'un qui me parle. Au commencement du monde, quelqu'un me parle. L'origine du monde, c'est une parole qui m'est adressée. Là, c'est plus original pour un grec déjà. Tiens, au commencement, une parole me donne la vie. Donc par exemple, ce soir, vous allez certainement vous brosser les dents comme moi et vous pourrez vous regarder dans la glace et dire, au commencement de mon être, il y a une parole. Au commencement de mon être, à l'origine de mon être, il y a une parole qui me dit vie. Ma vie provient, le fait que je me brosse les dents devant la glace et que j'aperçois que j'ai un bouton là, provient du fait qu'une parole m'a dit vie. Donc que quelqu'un me veut vivant, que quelqu'un me maintient dans l'être par sa parole. Ça, c'est drôlement plus fort, non ? Et donc, ça, un grec dit « Waouh, ça, c'est original ». Mais je pense que là, il est encore OK. Il peut encore dire « Bon, pourquoi pas ?» Qu'au commencement du monde, il y a une logique, qu'au commencement du monde, ce soit une parole. Le philosophe grec tient bon encore. Et puis, l'évangile de Jean continue, paf, paf. Et le logos se fait chair. Ce qui veut dire... L'origine du monde, l'origine de l'histoire, c'est un point dans l'histoire, c'est quelqu'un, c'est un visage. L'origine du monde, la parole qui me donne la vie, c'est un visage, c'est quelqu'un qui me parle, c'est Jésus de Nazareth. Et là, le grec, il referme l'évangile, il le jette au feu, vous voyez ? Ou bien il a la foi. Pour le grec, c'est une surprise absolue que l'origine du monde, ce soit quelqu'un. Vous voyez l'audace de l'évangile de Jean. Qu'à l'origine de mon être, ce soit un visage, une personne, un point dans l'histoire. Que l'origine de l'histoire soit un point dans l'histoire, un point dans la géographie. Que l'origine du monde, de ma propre vie et sa direction, le but, puisqu'on a dit le sens, c'est aussi l'origine et la direction, ce soit quelqu'un qui a un visage, ça c'est stupéfiant. Et c'est la première chose qui stupéfie Ratzinger. L'origine de mon être, c'est quelqu'un. La direction de mon être, c'est quelqu'un. Quelqu'un qui me dit vie. Et quelqu'un qui me dit vie pour toujours. Parce que vous savez bien, si vous aimez quelqu'un, vous voulez que cette personne vive pour toujours. L'amour veut toujours l'éternité de l'être aimé. On veut toujours que l'amour soit pour toujours en réalité. Et donc cet amour de Dieu est tellement fort pour sa créature qu'il la veut vivante pour toujours. Voilà comment Ratzinger commence sa lecture de l'évangile de Jean en étant stupéfié avec ce tout petit mot « logos ». Tout ce que ça nous dit de qui est Jésus de Nazareth. Ce charpentier Caïn, un peu certainement très doué de ses mains, qui devait réparer des charrettes. L'origine de l'histoire, l'origine du monde et sa direction, fallait quand même le faire. Et même nous, voyez, ça vaut le coup de se dire, est-ce que j'y crois vraiment à ça ? Est-ce que j'y crois vraiment ? Est-ce que j'ai mesuré que Jésus de Nazareth était ce logos, cette origine du monde et cette direction vers laquelle ma vie entière est orientée ? Ce visage vers lequel je vais, Jésus de Nazareth. Donc ça, c'est la surprise stupéfiante. Étonnante, ou déroutante, allez, on va dire une surprise déroutante, le logos. Ça, c'est pour ceux qui ont besoin des mots-clés. C'était mon tout petit premier point chez Ratzinger. Le logos, une surprise déroutante. Le deuxième petit point chez Ratzinger. Chez Jean, la façon dont Jésus se présente le plus souvent, c'est pour dire qu'il est le fils. Alors, il faut traduire ce mot fils en grec comme un enfant. Donc, ça veut dire que être fils, quand j'ai, je ne sais pas vous, tous les jeunes là-bas au fond, comment vous vous présentez. Mais voyez, il est assez rare. Peut-être que vous vous dites encore, je suis le fils de papa et maman. Mais souvent, on ne se présente plus tellement comme le fils de. Quand on dit, je suis le fils de, c'est que déjà, son identité, on l'appuie d'un autre. Et donc, c'est très frappant de voir que Jésus, et c'est ce que regarde Ratzinger avec beaucoup d'émerveillement, Jésus se présente très souvent dans l'évangile de Jean comme étant le fils et c'est son titre de noblesse le plus majestueux. Son titre de noblesse le plus haut, ce qu'il aime le mieux dire de lui, c'est « je suis le fils de papa, mon père du ciel ». Et Ratzinger regarde en disant « ça dit deux choses de Jésus ». Ça dit déjà qu'il se sent tout à fait relatif à un autre. Ça veut dire qu'il est tout à fait ouvert à son père. Ça va être le mot-clé chez Ratzinger. Il va être tout à fait ouvert. Il se sent celui qui est dans la main du père. Il se sent celui qui est mis au monde, tenu en vie par son père. Il se sent relatif à son père. Il se sent lié à son père. Il se sent ouvert à son père. Vous voyez, si Adam, dans le livre de la Genèse, a plutôt dit à Dieu « Je n'ai pas besoin de toi, débrouille-toi, moi je préfère manger de tous les fruits de l'arbre du jardin, je fais ce que je veux », ça c'est Adam. Adam qui se définit par le non, non. Pour être pleinement libre, bye bye Dieu, je préfère être autonome. Ça c'est Adam. Jésus, le Fils, c'est l'inverse. Mon Père et moi, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Oui Père, ce que tu veux. C'est l'anti-Adam. C'est le oui au Père, total. Si Adam était le non, il s'est fermé sur le non, il est mort d'ailleurs. Jésus est le oui, sans restriction, sans limite, ouvert, totalement ouvert à son Père. Ça, c'est la première chose que ça dit ce mot fils. Il est totalement ouvert à son Père. Il est dans sa main. Il n'est que oui. Il n'a jamais dit non. Il ne s'est jamais fermé. Et c'est comme ça qu'il a été pleinement épanoui. Adam avait cru qu'il allait s'épanouir en disant non. Finalement, il est mort. Jésus de Nazareth dit oui à son Père, il ressuscite. Le petit mot fils dit cette relation d'ouverture, de dépendance, de confiance, d'abandon. Oui, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Oui, Père, je te bénis, Seigneur du ciel et de la terre, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Ça, c'est les prières de Jésus. Et voilà que ce petit mot fils, on peut aussi tout simplement le traduire par enfant. Alors ça tombe bien parce que, évidemment, avant de venir ici, j'étais très stressée parce que c'est terrible pour moi de devoir parler devant plein d'inconnus comme vous. Vous l'êtes tous, pas tous, heureusement pour moi. Et puis, entre dans le métro, une poussette. Alors on était tous collés les uns sur les autres, suants et tout, c'était épouvantable. Vous imaginez bien le tableau. Et entre une poussette, donc je suis complètement projetée contre un grand type qui était une armoire à glace, entre une poussette et un petit enfant me regarde et me sourit, un petit bébé, et me sourit, mais il n'en pouvait plus de me sourire, mais moi j'en pouvais plus non plus de sourire, du coup on se souriait, du coup tout le métro s'est mis à sourire, et tout le monde regardait le petit bébé, et puis on continuait à sourire, il n'y avait plus un bruit dans le métro, on regarde, alors le petit bébé il a essayé de chipper un téléphone, ça a fait rire tout le monde, et voilà qu'avec cet enfant qui a rentré dans le métro, et moi je pensais à vous, je me disais c'est incroyable, je dois parler justement de Jésus enfant, et voilà c'était l'illustration, on peut traduire ce petit mot fils en grec par enfant. Au fond, et ça c'est aussi un des fils conducteurs de tout l'évangile de Matthieu, au fond Jésus est un enfant. Ce qui le caractérise quand il dit « ce que j'aime le mieux dire de moi », au fond c'est ce que nous dit Ratzinger, ce que Jésus aime le mieux dire de lui, c'est qu'il est le fils. Ce qu'on peut traduire par un enfant. Ce qu'il est, c'est un enfant. Et qu'est-ce qui caractérise un enfant? Vous voyez cet exemple dans le métro, la joie. La joie radieuse de l'enfant. Et là encore, la joie radieuse liée au fait qu'il est tout ouvert. Ce petit bébé, il ne me connaissait pas du tout. Et il était toute ouverture, tout accueil, tout sourire. Et du coup, toute joie jaillissante. Ça, c'est Jésus de Nazareth, qui n'a jamais connu l'amère tristesse du péché. Qui n'a jamais connu l'amertume du mal dans ses entrailles, comme hélas, nous l'avons connu. La vieillesse du péché, la tristesse banale et vulgaire et salissante de la faute. Et Jésus de Nazareth n'est que joie, allégresse, gaieté. Vous voyez, quand les papas, là, les mamans détestent ça, je suis sûre que toutes les mamans dans la salle seront d'accord avec moi pour dire que nous détestons ça, mais quand nos maris jettent en l'air les tout petits nourrissons, les tout petits bébés qui explosent de rire, vous savez, quand ils sont grassouillés avec plein de petits plis, des fossettes, et qu'on les entend rire, et que nous, les mamans, on est là, mais il va faire tomber mon bébé par terre, et que l'enfant est toute confiance, tout rire, toute allégresse, et qu'il saute, il rit. Pour moi, ça, c'est l'image de Jésus de Nazareth. Quelquefois, on a tellement regardé Jésus crucifié qu'on a oublié de regarder Jésus enfant. Jésus qui, jusqu'à la fin de sa vie, se définit comme étant un enfant, au point que le théologien Hans Urs von Balthasar, grand ami du cardinal Ratzinger, dira, je vous donne la petite expression, elle est si belle et si éclairante, « Jésus est le seul être sur la terre, dit Balthasar, qui n'a jamais quitté le mystère de l'enfance. » Jésus est le seul être sur la terre qui n'a jamais quitté le mystère de l'enfance parce que la tristesse du péché n'a jamais eu de prise sur lui, qu'il est toute ouverture, toute confiance, toute joie et que le Père peut le jeter en l'air. Oui, Père, Seigneur du ciel, de la terre, je te bénis. Et on entre comme ça dans l'allégresse de Jésus qui est pure joie, qui est joie radieuse, joie du matin. Vous voyez, là, on peut réentendre la parole de l'évangile de Matthieu. Alors paraît Jésus, l'être le plus joyeux que la terre ait jamais porté, celui qui n'a jamais quitté le mystère splendide, pur, innocent de l'enfance, la curiosité de l'enfance, la tendresse de l'enfance, la confiance de l'enfance et la vulnérabilité aussi de l'enfance. Parce que qu'est-ce qui est plus vulnérable qu'un petit enfant qu'on peut salir, abîmer ? Jésus a cette vulnérabilité, on le voit très bien à la Passion, il est infiniment vulnérable, il est vraiment celui qui n'a jamais quitté le mystère de l'enfance. Peut-être que ça nous donne une petite piste. Quand Jésus se fâche, laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Vous voyez, il ne se fâche pas beaucoup dans l'évangile, mais quand il se fâche, franchement, moi je pense que j'aimerais mieux ne pas être là, vous voyez. Ne les empêchez pas, le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Et puis plus loin, si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Vous voyez, quelquefois, on entend cette parole comme un petit conseil prêchi-prêcha de morale de Jésus et on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Je trouve qu'on comprend ce que ça veut dire quand on a compris que Jésus lui-même est un enfant. Un enfant au sens le plus noble, cet enfant dans les mains de son père, confiant, qui dit « Abba », cet enfant joyeux, cet enfant pur, cet enfant curieux, cet enfant vulnérable. Nous ne pourrons pas entrer entrer dans le royaume si nous ne sommes pas redevenus des enfants ? Parce que Jésus lui-même est un enfant et qu'il est le royaume. Vous voyez, il est la porte. Il dit de lui-même, la porte est étroite, parce qu'il faut rentrer dans une porte qui a la taille d'un enfant. Sinon, nous ne pourrons pas rentrer. Si nous sommes hauts de notre gros diplôme, il y a des gens qui ont bientôt des concours, là, je sais, en deuxième année, ils vont peut-être avoir des écoles prestigieuses. Mais attention, parce qu'il ne faut pas que la tête soit si grosse qu'on ne peut plus entrer dans la porte étroite. On voit que tout l'enjeu de la vie chrétienne, c'est de rentrer dans ce mystère évangélique de l'enfance, demeurer petit ou le redevenir, descendre. Ça sera le leitmotiv de ce grand saint qui s'appelle Charles de Foucault. Pas très loin d'ici, Saint-Augustin. Après, il est sans cesse hanté par l'idée. Il faut descendre pour suivre Jésus. Il faut descendre plus bas. Jésus est descendu, il faut descendre plus bas. En fait, il a aperçu quelque chose de ça. Jésus est le plus petit parmi nous. Je suis toujours très frappée de ça quand je vais aux ordinations. C'est très beau, les ordinations. Alors, vous avez les cardinaux. Il n'y a pas de cardinaux. Les évêques avec leurs grands mitres, merci. Tout le monde est superbe. Et c'est bon que tout le monde soit superbe, mais tout le monde est solennel et superbe. Et je me dis toujours... Jésus est le plus petit. Un petit morceau de pain. Dans nos assemblées à la messe à Saint-Philippe-du-Roule, Jésus est au milieu de nous toujours le plus petit. Si nous ne redevenons pas petits comme ses enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume. Ça, c'est le Fils. La dernière chose que je voulais dire de Jésus avec Ratzinger. Ratzinger va beaucoup s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est le Messie et l'élu ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On a dit, on attend dans l'évangile de Matthieu, dans tous les évangiles, et c'est bien normal, on l'aurait attendu aussi, un Messie puissant qui nous débarrasse de l'occupant. Et nous aussi, franchement, on attend un Messie puissant qui nous débarrasse de nos péchés déjà, qui nous débarrasse du mal, qui nous débarrasse de la mort, qui nous débarrasse de nos maladies. On attend ce Messie puissant, on l'attend, il n'y a rien à faire, on est comme ça. On voudrait toujours qu'il arrange nos affaires d'un coup de baguette magique. Et Ratzinger va beaucoup réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire pour Jésus d'être l'élu ? Et alors, l'évangile de Matthieu tout à l'heure nous a mis sur la piste. Comment Jésus vient-il accomplir la justice ? Comment Jésus vient-il vraiment être cette hache qui nous débarrasse du péché, ce feu qui brûle nos péchés ? Comment le fait-il ? En descendant au milieu de nous, parmi nous comme les pécheurs, et en se chargeant de nos fautes. Et c'est le mystère de la croix. Et cela, Ratzinger le regarde avec stupeur. Être élu, être le Messie, c'est porter le fardeau de toute l'histoire. Être l'élu, c'est pas arriver, gérer tout, arranger les affaires des gens, c'est être le crucifié. Se charger des blessures des autres à leur place, à leur place. Porter leurs fautes à leur place. Vivre pour les autres, échanger. Je prends sur moi tes fautes, je te donne ma vie. C'est ça, être l'élu et le Messie. Et il y a au pied de la croix ceux qui disent « Si tu es le Fils de Dieu, descends ! Si tu es le Fils de Dieu, montre ta puissance ! Si tu es le Fils de Dieu, montre-nous comme tu es puissant pour renverser le mal et la mort !» Et ça, paradoxalement, c'est souvent nos demandes à nous, mais ça c'est la demande de Satan en réalité. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, ça ressemble beaucoup aux tentations dans l'évangile de Matthieu. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Si tu es le Fils de Dieu, mange ses pains. Et cette petite voix de Satan, arrogante et méprisante et moqueuse, on la réentend au pied de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, montre-nous. Et je dois dire que si Jésus est une surprise déroutante, parce qu'il est le Logos, le sens du monde, la direction de notre existence, notre origine, et que notre origine a un visage, Jésus de Nazareth qui a l'accent et qui est charpentier. Si Jésus est une surprise joyeuse, un enfant radieux, lumineux, pur et innocent, qui éclate de rire, un enfant confiant et vulnérable, Jésus est aussi une surprise douloureuse. Et c'est tout l'itinéraire de la foi qui absolument, inévitablement, nous place au pied de ce Jésus qu'on ne comprend pas. Parce que nous aussi, nous sommes de ceux qui voudrions un Jésus qui descende de la croix et qui nous descende de nos croix. À toute force, nous voudrions cela. Et à chaque fois que dans nos vies se présente le choc de la souffrance, le choc de la croix, le choc de la mort, le choc de la détresse, nous sommes saisis par ce visage du Messie que nous ne comprenons pas. Ce visage du Messie souffrant, qui ne descend pas de la croix et qui ne nous fait pas descendre magiquement de nos croix, qui n'arrange pas nos affaires d'un coup de baguette magique, mais qui traverse les ténèbres de la mort pour nous conduire vers la vie, mais qui se charge de nos fautes jusqu'à en être blessé, transpercé pour l'éternité. Je crois que on ne peut pas mentir, et Jésus n'a jamais menti, en disant « c'est facile de suivre Jésus ». Je crois que ce serait une grave erreur de faire de l'évangélisation en disant « Jésus, c'est la réponse à tous nos problèmes, Jésus ». Jésus est déroutant. Jésus est une surprise douloureuse, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de la croix du Christ dans notre propre vie. Ni dans l'histoire de Jésus, ni dans la nôtre, il nous fera sauter de nos croix sans qu'on en soit meurtri et blessé. Et lui n'a pas menti en disant « si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il vienne, qu'il se charge de sa croix ». Jésus est une surprise splendide, mais une surprise douloureuse. Et bien des saints ont fait l'expérience de devoir passer par des grandes nuits, des grandes détresses, où on ne comprend plus le visage de Dieu, où on marche à tâtons dans l'obscurité, où on ne sait plus, et où nous ne sommes plus qu'un cri « pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, on doit, nous, les chrétiens plus anciens, le dire aux jeunes, qu'il faudra tenir bon dans ces épreuves-là, parce que Jésus est déroutant, mais qu'au bout du chemin, il est vraiment ressuscité, et que ça, c'est une lumière qui jamais ne s'éteindra, et qui sera la lumière de toutes nos épreuves et de toutes nos ténèbres, la résurrection au bout du chemin. Donc Jésus est une surprise déroutante. Il est une surprise joyeuse, il est un enfant, il est le fils bien-aimé du Père, celui qui dit « Abba, Père, j'ai confiance en toi dans toutes les épreuves ». Il est aussi le Messie défiguré, il est aussi une surprise douloureuse. Et je voudrais terminer sur le fait que même à la résurrection, Jésus est une surprise. Parce que je ne sais pas vous, mais si vous étiez, moi si j'avais été ressuscitée, j'aurais fait les choses, mais alors confettis, trompettes, bruyamment quoi, voyez. Enfin, c'est fini, nous sommes ressuscités, hourra. Non, vous n'auriez pas fait ça comme ça, vous? On arrive, hop, avec les nuées et les confettis, les tambours et les trompettes. Eh bien, dans tous les évangiles, on voit que la résurrection ne s'est pas du tout passée comme ça. Dans l'évangile de Jean, il y a cette petite phrase que j'aime énormément, qui dit tout simplement « c'était encore les ténèbres, Jésus se tenait là ». Voilà le récit de la résurrection, c'était les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas juste la vague nuit, il faisait un peu sombre, il faisait un peu noir. Les ténèbres. Les ténèbres, c'est quand on se dit « tout est perdu, c'est foutu, mon péché est tellement grave, il n'y a plus d'espoir ». Vous pensez bien que les disciples se sont dit ça après avoir crucifié Jésus quand même, enfin, empêcher qu'il soit sauvé au dernier moment. Le péché est tellement grave, il n'y a plus d'espoir, on a fait un truc, c'est irréparable. Les ténèbres, c'est quand on croit que Dieu nous a totalement abandonnés, que tout est foutu absolument à jamais. Les ténèbres, c'est quand quelqu'un qu'on aime est mort, et c'est le cas. Les ténèbres, c'est quand il n'y a plus d'espoir. C'était encore les ténèbres. Jésus se tenait là. Autrement dit, la résurrection ne se lève pas dans une aube éclatante qui s'impose à nous avec du bruit, du tintamarre, quelque chose d'évident, un éclat aveuglant. La résurrection se lève dans les ténèbres avec un type qui a des allures de jardinier en salopette, vous voyez ? On le prend pour le jardinier. Donc on a vu au début, alors paraît Jésus dans l'évangile de Matthieu, le type c'est un charpentier qui a l'accent. Et maintenant, le ressuscité, on s'attend un peu à un truc enfin éclatant, pas du tout, il ressemble à un jardinier. Et c'est au milieu des ténèbres. Et ça nous dit vraiment quelque chose encore de qui est Jésus. Si nous attendons de Jésus qu'il soit tonitruant, nous ne le rencontrerons jamais. Jésus se tient au milieu de nous comme ce jardinier en salopette, comme ce charpentier qu'on confond avec les pêcheurs. Et aujourd'hui, il se tient au milieu de nous dans une petite hostie blanche, silencieuse. Sa présence est tellement silencieuse qu'elle confine quelquefois à l'absence d'ailleurs. Et on voit que le matin de Pâques, Jésus est encore discret. Même le matin de Pâques, il faut aller à sa rencontre à tâtons. Il ne s'impose pas à nous comme une lumière aveuglante. Et d'ailleurs, les réactions des disciples, c'est « ils ne crurent pas ». Ils ne crurent pas. La fin de l'évangile de Marc, on a même l'impression que tout est loupé. Les femmes eurent des doutes et elles ne disent rien à personne parce qu'elles avaient peur. Clac, c'est la première finale de Marc, n'en parlons plus. Loupé, raté. Happy end, foiré. Donc c'est très intéressant et je pense que ça nous dit beaucoup la surprise qu'est Jésus, nous qui attendons toujours un Dieu tonitruant. Même le ressuscité demeure discret. Et on le rejoint dans quelque chose d'humble, petit, qui ressemble à notre vie ordinaire. Il ressemble à un jardinier, à un charpentier, il cuit un petit déjeuner de poisson, il nous dit « venez donc à table, allez en Galilée, pêcher des poissons ». Tout est simple. Et donc peut-être que pour terminer ce voyage, ce tête-à-tête avec Jésus, où on a essayé de le regarder comme si on vous allait au resto et que vous essayez de vous dire que votre femme, vous la connaissez par cœur, mais quand même, elle a des beaux yeux. Eh bien, ce Jésus est stupéfiant et peut-être que ce qui est le plus stupéfiant de lui, c'est son humilité. Son invraisemblable humilité. L'invraisemblable humilité de Dieu qu'on attendrait tonitruant et qui est en fait le plus petit, le plus silencieux, le plus humble d'entre nous. Qui d'entre nous accepterait de se faire nourriture et d'être mangé par les dents cariées, les bouches gâtées, à la mauvaise haleine des êtres humains? Jésus l'a fait pour nous. Et aujourd'hui encore, il se tient au milieu de nous dans une hostie tellement petite qu'on peut passer à côté, la faire tomber par terre, la piétiner ou l'ignorer tout simplement. Jésus est stupéfiant et je voudrais conclure en disant, on a essayé de le regarder, mais être chrétien, c'est être avec Jésus, c'est regarder Jésus, c'est se déshabituer de Jésus, c'est être ébloui par Jésus, comme a dit Madeleine Delbrel, j'ai été ébloui par Dieu. Mais c'est aussi lui ressembler, et ce sera ma conclusion, c'est aussi peu à peu, que la route soit longue ou qu'elle soit courte, comme on voit pour le petit Carlo Acutis, ou si on regarde Mère Teresa, une route beaucoup plus longue, ou Jean-Paul II. Peu à peu, à force de fréquenter ce maître aimé, ce maître surprenant qu'on ne comprend jamais, et peut-être même que plus ça va, moins on le comprend. À force de fréquenter ce Jésus de Nazareth tellement stupéfiant, tellement déroutant et quelquefois douloureusement déroutant, à force de le fréquenter, à force de recevoir son Esprit Saint, à force de le prier, à force de demander pardon pour nos fautes, inlassablement se mettre à lui ressembler. Qu'il puisse graver en nous ses traits et que, comme pour les amis de Madeleine Delbrel, les gens puissent se dire « Jésus est vraiment vivant au milieu de ces gens !» Tellement vivant que ces chrétiens de Saint-Philippe-du-Roule ressemblent à Jésus. À force de fréquenter Jésus, de l'écouter, de le regarder, de le comprendre ou de ne pas le comprendre, de crier vers lui, de se laisser relever par lui inlassablement, ces chrétiens de Saint-Philippe-du-Roule ou du diocèse de Paris se mettent à lui ressembler. C'est le sens du tout petit mot si beau dans les épîtres de Paul, être configuré à Jésus, avoir la même figure. Qu'on puisse à la fin avoir la même figure. Et ce qui est très beau, et je terminerai là-dessus, c'est que pour chacun, ce sera différent. Parce que si on regarde Zélie Martin, Louis Martin, Saint Jean-Paul II, Mère Teresa, Carlo Acutis, on voit qu'on peut avoir toutes les psychologies, toutes les personnalités. On peut être gourmand comme Carlo qui chipait du Nutella, même si sa maman le dit un peu moins par, elle est en train d'oublier les défauts de son petit Carlo. Elle le disait beaucoup au début, qu'il chipait du Nutella, qu'il passait trop de temps devant les ordinateurs, qu'il trichait un peu. Ou alors on peut être ascète comme Saint-Charles de Foucault, qui lui ne mangeait qu'un pain d'orge vaguement roulé qu'il avait fait lui-même, et quand les invités du fort voisin, qui étaient des soldats français, venaient manger un petit morceau de pain, ils découvraient qu'il y avait dedans des poils de chameau. Lui n'était pas gourmand, vous voyez. On peut être un ascète comme Charles de Foucault, un gourmand comme Carlo Acutis, on peut être un grand intellectuel qui dévore les livres comme Thomas d'Aquin, ou un petit François d'Assise qui dit qu'il ne faut aucun livre dans sa maison et que la seule chose qui compte, c'est la prédication, la pauvreté. On peut avoir toutes les psychologies, tous les caractères. On peut être anxieux comme Zélie Martin ou n'avoir peur de rien comme Mère Teresa. Au fond, l'Esprit Saint fera en chacun de nous quelqu'un qui ressemble à Jésus, qui lui est configuré. Je voudrais simplement terminer en disant que moi, plus j'avance, plus je découvre que Jésus est joie. Plus j'avance, plus je découvre que je ne le comprends pas, mais qu'il est joie inexprimable, qu'il est allégresse, stupéfiante. Joie tellement grande que vraisemblablement, ça doit être cela, la joie du paradis. Pouvoir entrer en lui, aimer comme il aime et jubiler de sa jubilation et de sa louange. Merci beaucoup.